RFI, grand reportage. Amélie Tullet.
Bonjour à tous, nous sommes sur nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos tablettes à longueur de journée. On communique ainsi avec le monde entier pour des raisons privées ou professionnelles. Mais les réseaux numériques ne peuvent fonctionner que s'ils sont alimentés par de l'électricité, beaucoup d'électricité. Alors cette consommation peut-elle augmenter indéfiniment ? Le numérique, beaucoup d'électricité pour du virtuel, c'est un grand reportage d'Agnès Rougier.
Communiquer par les réseaux numériques, c'est instantané ou presque, et ça fonctionne à l'électricité. Mais plus nous échangeons avec nos portables, ordinateurs et autres tablettes, plus il faut d'électricité. Ceci sans compter l'énergie qui a déjà été dépensée pour fabriquer et transporter nos objets connectés. Mais en tant qu'utilisateur, on ne s'en rend pas compte. Alors que se passe-t-il quand on envoie un mail ? C'est vrai, on écrit, on tape entrée et hop, c'est magique et beaucoup plus rapide que le courrier postal. Anne-Cécile Orgerie de l'Institut de recherche en informatique du CNRS à Rennes.
Donc effectivement, on est sur notre équipement terminal, on écrit le mail, on le rédige et on clique sur « Envoyer ». Là, il emprunte ce qu'on appelle les autoroutes de l'information, donc les réseaux de télécommunications, qu'ils soient sans fil ou filaire, et qui vont acheminer ce mail jusqu'à un centre de données. Dans ce centre de données, il va être traité, stocké plusieurs fois, répliqué, pour pouvoir, en cas de panne, être accessible quand même, et ensuite envoyé à l'utilisateur, donc dans le centre de données de la messagerie de l'utilisateur. Donc là encore, il va transiter par des réseaux, être stocké sur un autre centre de données, le centre de données qui appartient à l'opérateur de mail du destinataire, et puis être acheminé jusqu'au destinataire et jusqu'à son équipement, smartphone, tablette, montre, etc.
Où là, il va rester stocké ?
Alors là, il va rester stocké plusieurs fois, donc par exemple sur votre tablette également, il sera stocké dans le centre de données pour pouvoir être accessible depuis un navigateur internet, par exemple, par votre messagerie partout dans le monde.
Si l'on compte le matériel, le temps d'écriture et de lecture, l'envoi d'un courrier électronique avec une pièce jointe d'un mégaoctet à un destinataire consomme l'équivalent électrique d'une ampoule de 60 watts allumée pendant 25 minutes. Et si l'on additionne toutes les technologies de la communication de la planète, elles absorbent 14% de la consommation électrique mondiale. C'est énorme et ça continue à grandir. Nous sommes avec Françoise Berthoux à Grenoble, où elle dirige le groupe Eco-Info du CNRS pour une informatique éco-responsable.
On utilise de plus en plus de réseaux et de data centers parce qu'on est friands d'applications qui nous rendent des services. Et comme ce nombre d'applications explose, en fait, vous voyez d'ailleurs maintenant quand vous vous baladez devant un restaurant, vous voyez presque une personne sur deux qui n'est pas en train de parler avec son interlocuteur, mais qui est sur son smartphone. Donc tout ça, bah, ça consomme. Ça consomme pas que l'énergie de la batterie qui est dans le téléphone, ça consomme du réseau. Et en plus, le smartphone en question, il passe par du 4G et le 4G, ça consomme beaucoup. Et donc après, ça va aller dans des data centers, solliciter des applications, ça va stocker des données, si vous envoyez des photos, si vous faites du WhatsApp ou que sais-je. Donc tout ça surconsomme. Il y a aussi aujourd'hui, la plus grosse partie de la consommation des réseaux, c'est le streaming.
Toutes ces informations sont stockées sous forme de 0 et de 1 sur des serveurs regroupés dans des centres de données ou data centers, de plus en plus nombreux et gourmands en électricité. Pour comprendre comment ça marche, nous avons suivi le chemin des informations jusqu'à deux centres de données, un grand et un petit, chacun ayant une philosophie différente. Le grand, c'est Data 4 à Marcoussi, à quelques 60 km de Paris, au sommet d'une colline et au milieu de la forêt.
Votre destination se trouve sur la gauche.
Notre guide est Jérôme Totel, qui s'occupe des développements produits. Oui, alors pour arriver déjà, j'ai traversé les bois et tout, et là on est encore dans la nature, sauf que là, on va passer une barrière avec des chevaux de frise. Ah, c'est bon. Jérôme Totel.
Donc là, on rentre dans une zone qui est plus sécurisée que l'entrée du campus, puisque nos clients viennent chez nous pour, entre autres, la sécurité physique de leur système d'information.
Tous ces bâtiments qu'on voit devant nous, c'est là que sont tous ces fameux serveurs, en fait, que vous louez à vos clients.
Alors nous, on loue des espaces d'hébergement et nos clients apportent ensuite leur système d'information, des serveurs, des routeurs pour tout ce qui est réseau, etc. ou des baies de stockage pour stocker des données.
Là, ce sont d'immenses bâtiments, hein, sans beaucoup de fenêtres. Bon, on va aller voir, c'est un peu mystérieux vu d'extérieur. On va aller voir à quoi ça ressemble.
Allons-y. Alors, chaque bâtiment fait 2000 m² de surface d'hébergement informatique utile pour nos clients. Et pour faire fonctionner cet hébergement utile, il faut en plus 2000 m² d'infrastructure pour tout ce qui est groupe électrogène, système de climatisation, etc. Donc chaque bâtiment fait une surface d'environ 4000 m². Ah, ça marche. On va s'éviter de faire tout le tour. Donc ici, vous avez une salle de 1000 m² dans laquelle nos clients ont accès pour venir installer leurs équipements informatiques. Cette salle, elle a besoin d'être réfrigérée en permanence, puisque un serveur, plus vous lui demandez de travailler, plus il chauffe, et ce serveur, il faut le refroidir. Donc on a tout un système de climatisation avec un plafond diffusant qui permet de réfrigérer les salles informatiques et d'extraire l'air chaud vers l'extérieur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est l'électricité. Un serveur, il lui faut qu'il soit alimenté électriquement en permanence. Et c'est ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les clients viennent dans un data center, c'est pour avoir une alimentation électrique disponible en 24/7, sans coupure. Donc, chaque baie est alimentée par deux sources électriques complètement différentes, pour des soucis de redondance. Et l'ensemble des maillons de cette chaîne électrique sont sécurisés et redondant pour que s'il y a un souci, il y a quelque chose, un mécanisme de secours qui est capable de se mettre en place.
Donc ça ne s'éteint jamais.
Jamais. Pour que tout ça fonctionne, nous, derrière, on a tout un système d'équipement pour produire l'énergie, pour livrer la climatisation avec des systèmes de redondance. Et c'est ça qu'on va visiter maintenant.
Allons-y.
Donc, c'est le local batterie. Si on a une micro-coupure d'électricité, les serveurs supportent très mal les micro-coupures ou une coupure franche, et dans ce cas-là, il faut qu'on démarre des groupes électrogènes. Donc, vous avez ici 4 groupes électrogènes, chacun fait 2 mégawatts. Et donc, on en a toujours un en plus pour que si jamais il y en a un qui a un problème, on ait assez de puissance pour secourir l'ensemble du bâtiment. Et donc, si on a un souci, ils démarrent tous en même temps, ils se synchronisent et ensuite, on ne laisse allumer que ceux dont on a besoin.
En fait, ça ressemble à des espèces de grosses locomotives jaunes. Hein. Ce sont des machines impressionnantes, en tout cas. Hein. Jérôme Totel, on est ici dans un campus en pleine nature. Vous avez un tropisme pour la biodiversité, hein.
Alors, en effet, on a une démarche biodiversité très importante. Donc, on a notamment plusieurs dizaines de ruches sur le campus. On a également des prairies sauvages. On a un garde forestier. On a plusieurs jardiniers qui sont sur le campus en permanence pour justement prendre soin de l'environnement. On a également un système pour acheter des certificats. Donc, on réinjecte l'ensemble de notre consommation électrique sur le réseau ERDF en énergie renouvelable.
Est-ce que ça vous pousse à faire des économies d'énergie ?
Alors, nous, ça nous pousse, mais également nos clients, puisque nos clients, leur facture est directement proportionnelle à leur consommation. Donc, ils sont également, eux, très intéressés en de faire des économies.
Mais ça fait combien de temps que ça existe ici ?
Ça fait une douzaine d'années.
Donc, vous avez vu dans le temps, vous avez vu une progression dans quel sens ? Est-ce que vous avez l'impression que ça a progressé dans le sens d'une moindre consommation pour une meilleure efficacité ? Comment avancent les choses, puisque 10 ans, ça laisse le temps quand même de voir une évolution ?
Ce qu'on voit, c'est que les clients sont beaucoup plus sensibilisés que dans le passé sur ces aspects environnement et économie d'énergie. La preuve, c'est que de plus en plus de clients nous demandent de mettre des solutions de confinement pour éviter de mélanger l'air chaud et l'air froid, pour être plus efficace et pour du coup consommer moins d'énergie.
Malgré les efforts déployés chez Data 4, chaque bâtiment consomme 4 mégawatts, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui revient à laisser 400 000 ampoules de 10 watts allumées jour et nuit, tout en même temps. Comme les autres centres de données, ceux de Steamergy fonctionnent 24 heures sur 24, mais avec une philosophie différente. Steamergy a choisi de construire de petits centres de données dans les centres-villes, au plus près des clients, avec une idée intéressante, valoriser la chaleur émise par les serveurs. Nous sommes à Paris, devant la piscine de la Butte aux Cailles. Il est 10h du matin, la piscine vient d'ouvrir. Et rien ne pourrait laisser penser que cette piscine est également un centre informatique, ou plutôt un data center, un centre de données.
Bonjour.
Bonjour, je suis pressée avec vous, j'ai rendez-vous.
Oui, tout à fait, avec Christophe Perron. président fondateur de Steamergy. Steamergy qui a installé notamment en mai 2017 cette installation de data center au sein de la piscine de la Butte aux Cailles.
Est-ce qu'on peut visiter ce data center ?
Je vais vous amener, alors du coup il va falloir qu'on rentre.
Bonjour.
Donc là on rentre en effet dans les sous-sols de la piscine, là où se situent notamment les chaufferies. Donc on a quelques dizaines de mètres à parcourir.
Alors on se descend un petit escalier. Ah ça y est, là on rentre dans les. Voilà. Dans les endroits interdits. Donc là on est dans une galerie, on est sous la piscine. Une nouvelle porte.
Avec des portes, il y en a un certain nombre.
Donc là on arrive au cœur du sujet. Et là il y a une clé.
Donc voilà ce center, cette salle où on a aujourd'hui 6 mini data centers qui sont installés et qui fonctionnent et qui en fonctionnant font chauffer l'eau de la piscine.
C'est beaucoup moins grand que les data centers que j'ai pu visiter jusqu'à présent. Alors vous pourriez nous décrire un petit peu ce qu'on voit là, parce que là vous en avez ouvert un.
Donc là ce que vous voyez, c'est des dizaines de serveurs qui sont alignés avec plein de fils électriques et plein de fils réseau.
Est-ce qu'on peut décrire, qu'est-ce que c'est un serveur finalement ?
C'est une longue boîte dans laquelle on va avoir des processeurs, de la mémoire, des disques durs, donc plein de composants électroniques qui fonctionnent ensemble. Là, de ces serveurs informatiques, donc de ces grandes boîtes pleines d'électronique, eh bien on va en avoir une vingtaine. Et donc pour faire fonctionner tout ça ensemble, on vient relier tous ces serveurs informatiques avec des fils réseau. Et puis finalement, chacun de ces serveurs informatiques, de ces racks informatiques, est relié également en centralisé. Donc ces 6 boîtes métalliques qu'on décrivait tout à l'heure, eh bien fonctionnent également ensemble. Et après, on vient faire fonctionner et rattacher à travers une fibre optique qui permet de faire transférer l'information à la vitesse de la lumière les autres sites qui sont situés à Paris ou à Nantes ou à Lyon ou à Lille ou à Grenoble. Donc c'est des dizaines de serveurs informatiques qui créent en effet un ordinateur géant qui est au sein de la chaufferie de la piscine et qui permet deux fonctions. La première fonction, c'est sa fonction initiale, c'est de faire du traitement ou du stockage de la donnée. Toutes ces données qui sont traitées ou stockées émettent de la chaleur. Les serveurs informatiques émettent de la chaleur en fonctionnant. Eh bien, cette chaleur, nous, on vient la récupérer pour chauffer l'eau de la piscine. Donc, c'est la deuxième fonction de ces mini data centers chaudière numérique.
Dans les deux centres de données que nous avons visités, on fait visiblement des efforts pour réduire l'empreinte énergétique et écologique. Mais cela a-t-il vraiment un impact ? Anne-Cécile Orgerie du CNRS.
Non, probablement pas. Alors déjà, pour les coûts de fabrication, la moitié de la consommation électrique mondiale du numérique, c'est juste pour la phase de production de ces équipements. Donc les impacts du numérique, les impacts négatifs, ils sont pas juste sur la consommation électrique, ils sont aussi sur l'utilisation des ressources. Donc ça, on imagine que ça va pas pouvoir continuer indéfiniment, vu l'état des stocks connus actuels des différents métaux rares, des terres rares, etc. Donc ça, on imagine que ça va décroître. L'autre facteur, c'est le prix de l'électricité. Si on a de l'électricité qui est plus chère, effectivement, on va s'intéresser de plus près à comment économiser et comment améliorer l'efficacité énergétique de nos équipements. Donc, on espère qu'en améliorant cette efficacité énergétique, on va réduire la consommation globale.
Mais alors, les gens travaillent à réduire la consommation énergétique des centres de données, des data centers, probablement aussi donc à réduire la production de chaleur, parce que quand même la production de chaleur c'est une déperdition d'énergie, Christophe Perron. Donc vous avez peut-être pas intérêt à ce que ça s'améliore, que ça s'optimise trop.
Ah si. Alors ça c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, c'est-à-dire que plus on va pouvoir mettre de serveurs informatiques par site, donc par endroit qui nécessite de la chaleur, le mieux c'est. C'est-à-dire que si on réduit à diviser par exemple par deux la consommation d'un serveur informatique, donc sa production de chaleur, et bien sur chaque site, on va pouvoir multiplier par deux le nombre de serveurs pour pouvoir apporter la même quantité de chaleur pour chauffer l'eau des sites. Donc c'est tout dans notre intérêt à ce que la puissance de chaque serveur diminue ou sa capacité de calcul augmente, respectivement à son énergie, pour pouvoir proposer des services qui soient de plus en plus forts, de plus en plus riches au sein de chacune de nos chaudières numériques.
Chez Steamergy, on voudrait donc continuer à chauffer la piscine en augmentant le nombre des serveurs. Est-ce à dire que réduire la consommation d'énergie n'est pas la solution ? Anne-Cécile Orgerie.
Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire qui a déjà été observé plusieurs fois. Et notamment, on peut prendre l'exemple, par exemple, des smartphones. La capacité des batteries des smartphones, durant les 5 dernières années, elle a été augmentée de 50%. Et pourtant, notre fréquence de recharge des smartphones n'a pas évolué. Pourquoi ? Parce que nos applications sont de plus en plus gourmandes. Et on a de plus en plus d'applications, de fonctionnalités diverses et variées sur les smartphones. Donc on a amélioré quelque part la capacité des batteries, on a amélioré l'apport d'électricité. Sauf que, de l'autre côté, comme cette électricité devenait plus abondante, eh ben on l'a utilisée d'autant plus. Et donc, au final, on n'a pas fait d'économie d'électricité, d'énergie là-dessus.
Quels pourraient être alors les leviers d'amélioration ?
Informer, sensibiliser les utilisateurs, c'est vraiment le premier pas. Mais ensuite, il y a des efforts à faire aussi bien sur les constructeurs que la conception des systèmes informatiques distribués dans leur ensemble. Et donc, pour essayer d'adapter donc aux variations de charge, créer des modes veille pour améliorer la gestion de l'énergie de bout en bout pour l'ensemble des systèmes informatiques. Et ainsi, limiter leur empreinte environnementale, pas seulement sur l'électricité, mais aussi sur les ressources qu'elles utilisent, notamment pour le refroidissement et leur production. Donc essayer d'utiliser plus d'énergie renouvelable, essayer d'allonger la durée de vie des équipements, améliorer leur réparabilité pour allonger cette durée de vie. Et puis enfin, modifier nos habitudes d'achat, de consommation des objets et des services du numérique. Et tout ça pourrait être permis si on avait des outils au niveau aussi bien des entreprises que des services publics et des utilisateurs finaux pour contrôler notre impact environnemental du numérique. Donc mesurer les améliorations possibles sur le numérique.
Mais dans un monde où les objets connectés sont de plus en plus nombreux, où un smartphone est construit pour durer 2 ans, la demande en énergie d'un bout à l'autre de la chaîne numérique n'arrête pas d'augmenter. Françoise Berthoud du CNRS.
Sur la consommation électrique du numérique, on estime qu'elle est de l'ordre de 8% par an. 8% par an, ça semble pas énorme, mais il faut bien avoir en tête que 8% par an, ça veut dire qu'en 10 ans, la consommation électrique, par exemple, totale, liée au numérique, elle a doublé. Donc une croissance exponentielle, il faut vraiment avoir en tête que ça double assez vite. Hein. Et cette consommation, je ne sais pas si elle va continuer d'augmenter à ce rythme-là. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. On peut imaginer que les constructeurs font des efforts importants pour réduire. Et que donc, l'augmentation du nombre d'objets ne va probablement pas, même c'est presque sûr, être liée à une explosion de la consommation d'énergie. Parce que de toute façon, on atteint les limites et que ça ne va pas être possible. Si on prend par exemple la consommation de certains métaux critiques, comme par exemple le tantal qu'on utilise dans les smartphones, le taux de croissance actuel, c'est 12%. 12%, ça veut dire que le doublement, c'est en moins de 7 ans. On peut espérer que les constructeurs vont faire des progrès ou vont essayer de trouver d'autres substituts. Mais on ne peut que constater qu'on est toujours dans cette logique de consommer et de consommer et de consommer. Donc à un moment donné, si vous voulez, il va falloir revenir là-dessus parce que même si vous imaginiez un monde où on recyclait à 80% les métaux, eh bien, même avec ce 80%, tant que le taux de croissance est ce qu'il est, eh bien, on ne fait que reculer le moment où on va rentrer dans le mur. En fait, ça ne suffit pas. Il faut déjà arrêter cette explosion de consommation. Et, en parallèle, augmenter nos taux de recyclage, etc., et réduire la consommation d'électricité.
Le numérique, beaucoup d'électricité pour du virtuel, un grand reportage d'Agnès Rougier réalisé par Pierre Chaffangeon.